parler de la paracha que nous venons de lire, la paracha de Vaishlach, pour arriver à la paracha de Vaishlach, il faut obligatoirement passer par la paracha de Vayetse. Vous savez que Akadosh Baruch Hu a créé le monde sous la forme de couples. Les couples ne sont pas seulement l'homme et la femme, ils sont d'une manière générale et beaucoup plus profonde, donneur et receveur. L'homme et la femme doivent jouer dans leur vie ce rôle-là de donneur et de receveur. Il y a donc un côté potentiel qui donne la possibilité de se développer sans pouvoir se développer, et il y a le côté qui développe. Donc l'homme et la femme, le masculin et le féminin, c'est en réalité une création qui se retrouve à tous les étages de notre vie, y compris au niveau de la Torah. La Torah, elle aussi, apparaît sous deux formes. Et les parachiotes que nous lisons sont toujours, évitez de passer devant la caméra.
Oh, pardon.
J'ai oublié la caméra.
Sont toujours masculines et féminines, c'est-à-dire une paracha qui est potentielle et une paracha qui manifeste, qui révèle, qui dévoile. Une lumière et un écran. Donc pour comprendre la paracha de Vaishlach que nous venons de lire, nous devons un tout petit peu juste revenir à la paracha de Vayetse, qui était, par rapport à elle, une paracha masculine. Et la paracha que nous venons de lire hier était une paracha féminine. Voici donc un couple. Paracha de Vayetse, Yaakov mi Be'er Sheva. La paracha de Vayetse, donc, lorsque Yaakov est sorti de Be'er Sheva, Aska Be'yetziat Yaakov me'eretz Israël. Donc, à traiter. Le sujet qui a été traité là-bas, c'est la sortie de Yaakov de la terre d'Israël. Vehifta shoresh ubasis lechol agaluyot shel am Israël leorech ha'historia. Et par ce fait, elle est en réalité une matrice pour toutes les formes de sortie possibles et imaginables pour le peuple d'Israël durant son histoire. Tout simplement parce que Yaakov Avinu, c'est la matrice, c'est notre père, et ce qui est inscrit dans les valeurs du père passe automatiquement dans les gènes des descendants. Et donc le peuple d'Israël étant sorti de Yaakov Avinu, les actions de Yaakov vont être gravées dans l'histoire du peuple d'Israël durant toutes les générations. Donc si Yaakov, l'homme individuel, sort de Be'er Sheva pour aller à Haran, eh bien en réalité c'est la sortie du peuple d'Israël de Be'er Sheva, donc de Eretz Israël, pour aller à Haran. Traduction: c'est toutes les sorties que le peuple d'Israël subira un jour dans son histoire. Donc la première sortie du peuple d'Israël en exil, c'était sous la forme de Yaakov. Yaakov va sortir en exil, c'est le peuple d'Israël qui va sortir en exil. C'est très important à savoir pourquoi. Parce que de ce qui s'est passé dans la vie privée de Yaakov, dans tous ces périples, eh bien nous apprenons ce qui va se passer pour le peuple d'Israël durant tous les exils. Donc on va devoir apprendre les halachot de la galoute et les halichot de la galoute. C'est-à-dire comment la galoute, comment faire face à l'exil. Beitziato Yaakov cholem. Première réflexion, nous faisons attention à un détail qui n'en est pas un, vous allez comprendre pourquoi, Yaakov, immédiatement ou au moment où il sort de Be'er Sheva, avant de quitter, rêve. Kedei likbo et yesod ha-tikva be'Israël. Eh bien, ça aussi, la règle, donc, c'est ma'asé, avot, siman, les banim. Écoutez bien, les actions de nos pères vont être gravées, scellées dans l'ADN des enfants. Non pas les pensées, non pas les idées, les actions. Ça aussi, c'est très important. Pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, gardez-le bien en mémoire. Ce ne sont pas ce que vous allez dire à vos enfants qui va compter, c'est ce que vous allez faire. Ce sont les actions des parents. Les enfants n'entendent pas. Lorsque un papa ou une maman leur disent « Fais comme ça, ne fais pas comme ça, c'est bien que tu fasses comme ça, c'est pas bien que tu fasses comme ça, c'est pas ça. » Toi, est-ce que tu as fait comme ça? L'enfant ne va pas apprendre de tes dires, ni de tes pensées, ni de tes réflexions. Il va apprendre de tes actes. Comment papa, comment maman a vécu? Ma'asé avot, lo marchev et avot, siman labanim. Donc si Yaakov rêve, c'est en réalité une indication pour l'ensemble du peuple d'Israël. En sortant de la terre d'Israël à tous les exils, il va falloir rêver. Traduction, ceux qui ne sortent pas d'Israël en rêvant, ceux qui perdent leur rêve vont mourir en exil. Comprenez bien le poids. Autrement dit, rêver fait partie indissociable de la vie de la nation en exil. Une nation qui s'est arrêtée de rêver en exil ne peut plus espérer revenir sur sa terre parce qu'elle n'a plus d'attente. Rêver pas dans le sens d'aller dormir et de faire un rêve. Vous comprenez qu'il s'agit ici de rêver. Qu'est-ce que je vais être quand je serai grand? Je me dois moi-même, en tant qu'homme individuel, de continuer mon rêve. Car toute ma vie, il y a en réalité ce jeu entre l'exil et la rédemption. Chaque jour qui passe, il y a en lui Galout et Geoula dans la même journée. Aujourd'hui, vous avez subi, il suffit juste de me raconter vos journées pour que je vous dise combien d'exil vous avez eu aujourd'hui et combien de rédemption. Vous comprenez que la Galout et la Geoula n'est pas seulement une notion large, c'est une notion qui s'inscrit aussi dans la racine la plus intime de notre vie de chaque instant. Et donc il va falloir rêver à chaque fois que vous êtes dans une position de sortir en exil pour revenir un jour. Car le but, ce n'est pas de sortir, c'est de sortir pour revenir. Et revenir avec quoi? Avec quelque chose que vous avez gagné lorsque vous êtes sorti. Sortir et revenir, ça ne veut rien dire. Sortir, c'est pour revenir avec une richesse, avec un bien, avec un butin. Ce butin peut être au niveau de toutes les formes, pas seulement spirituelles. Ça peut être esprit et matière, ça peut être valeur, ça peut être temporel, ça peut être beaucoup de choses. Toutes les notions que je n'ai pas eues sur la terre d'Israël, parce qu'elles étaient emprisonnées en exil, eh bien, je dois sortir dans cet exil pour aller récupérer ces étincelles qui appartiennent à ma vie, sans lesquelles ma vie n'est pas complète. Donc, je me dois, et voici la valeur de tous les exils que le peuple d'Israël a subis dans son histoire, c'est pour aller récupérer des valeurs qu'il n'avait pas ici, et qu'il fallait repartir pour récupérer.
Il y en a encore ?
Au niveau individuel, il y en a encore. Au niveau collectif, c'est terminé. le butin le plus important que nous récupérons aujourd'hui lors de notre retour sur la terre d'Israël, c'est le Zohar. C'est la lumière cachée de la Torah et les valeurs cachées de la vie. Alors au niveau individuel, vous pouvez encore sortir pour récupérer des étincelles matérielles, mais qui vont se renforcer en réalité le retour de la nation. Donc il faut rêver. Bizman yetziotav la galuyot ashunot. Yaakov metaken tfilat arvit. Encore une indication très importante que les sages ne manquent pas de nous dire. Yaakov a instauré la prière du soir. Arvit. Mais qu'est-ce que ça peut bien nous faire? Yaakov a fait tfilat arvit. Avraham a instauré tfilat shacharit. Yitzhak a instauré tfilat mincha. Ça tombe bien, ils sont trois, les prières sont trois, ça tombe apparemment bien. Moraï Verabotaï, c'est beaucoup plus profond que cela. Instaurer la tfila de Arvit, c'est encore une fois dans le même sens, dans le même ordre d'idées. La tfila, traduction réelle, c'est lien. Faire un lien, un kesher. En hébreu, l'ilpot, c'est l'ikshor. Ça veut dire que la tefila de Arvit, c'est le moyen de se rattacher à Kadosh Baruch Hu quand il fait nuit. Vous comprenez le message? Est-ce que pendant mon exil, je peux encore être relié au divin? Quand il fait jour, c'est facile. Tout est clair. Alors je dis merci mon Dieu. Mais est-ce que tu es capable de dire merci mon Dieu même quand tu as quelque chose qui est de l'ordre du noir? De l'ordre du malheur, de l'ordre de l'inconscient, de l'ordre des doutes. Ça, c'est la force de Yaakov. Vous comprenez maintenant qu'il ne s'agit pas d'une valeur technique. Instaurer la tfila de Arvit, c'est être capable d'être relié à Dieu, même dans les moments les plus noirs de ta vie. Voilà Yaakov. Même lorsqu'il fait nuit dans ta vie, il va falloir que tu gardes le lien. C'est pourquoi Yaakov est le patriarche qui est le plus proche de Hanouka avec son fils Yosef. Pourquoi? Parce que c'est justement apporter la lumière lorsqu'il fait nuit. Et Hanouka, c'est apporter la lumière lorsqu'il fait nuit. Et pas seulement lorsqu'il fait nuit, parce que le soleil s'est couché et que les étoiles sont en train de sortir. Ça, c'est technique. Quand il fait nuit dans ta vie, est-ce que tu es capable de maintenir une lumière, même dans les moments d'angoisse, même dans les moments de doute? Même dans les moments de faiblesse, même dans les moments de maladie, même dans les moments d'exil. Une fois que nous avons compris cette sortie et ces différentes sorties, il faut juste rappeler que Yaakov sort de Be'er Sheva. Be'er Sheva, en plus que d'être une ville où votre serviteur est né, c'est la source du monde matériel. Pourquoi? Parce que le monde matériel est basé sur le chiffre 7, ce sont toutes les sphères d'en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Le monde de la matière est régi par la lettre, par le chiffre 7, par la lettre Zayin. Mais il y a une source à ce 7. C'est le chiffre qui est au-dessus du 7, c'est le 8. Le 8 est au-dessus du 7, on peut dire que c'est le 1, qui est avant le monde de la matière. Eh bien, il est dit, mais il faut l'entendre, Be'er veut dire le puits, Sheva des 7. Donc Be'er Sheva, c'est le puits des 7, donc le 8, donc l'au-delà, donc le Olam Habba. Donc sortir de Be'er Sheva pour Yaakov, c'est sortir du Olam Haba pour descendre dans le Olam Hazé. C'est bien, non? Il faut, mais il y a un danger. Le texte nous dit, Vayelech Haran. Il va vers Haran. Haran, ce n'est pas seulement le nom, encore une fois, d'un endroit, mais la colère de Dieu. Haron, Af. Quand on sort du Olam Abba pour descendre dans le Olam Azé, on est dans un risque de tomber dans la colère divine si on ne sait pas se conduire dans le 7 selon les valeurs du 8. Alors sortir, c'est bien ? Bien sûr que c'est bien. Il faut sortir. C'est important de sortir. Ceux qui ne sortent pas ne peuvent d'ailleurs même pas étudier. Pour étudier, il faut sortir. C'est marqué textuellement. C'est Ulmad. Tu veux étudier dans ta vie, tu dois sortir. Sortir de quoi ? De ton propre système de réflexion. Car si tu es habitué à penser de telle manière, tu ne pourras étudier toujours que de cette manière. Donc tu es bloqué à toutes les autres manières. Donc pour étudier réellement, il faut être capable de lâcher prise ton système habituel de reconnaissance pour sortir vers autre chose, sortir de soi. Tse, ulmad. Il n'y a pas marqué « va étudier ». Sors de toi-même, de ton système pour étudier. C'est comme ça que tu pourras étudier. Bien entendu, c'est valable pour tous les domaines. Sinon, vous êtes cloisonné, bloqué, étriqué dans votre système. Parashat Vaishlach, Yaakov Malachim, nous sommes donc dans la parashat de Vaishlach que nous venons de lire, ce Shabbat. Oseket b'chazarat Yaakov l'Eretz Yisrael. Cette fois-ci, c'est le retour de Yaakov sur la terre. Alors pour nous, il s'est passé une semaine. Mais pour Yaakov, quelques dizaines d'années. 22 ans. Alors c'est facile pour nous de tourner quelques pages. Mais il faut comprendre que dans ces deux parachotes, la Torah nous résume en filigrane, sous la forme de l'histoire d'un homme, Yaakov, l'histoire du peuple d'Israël durant toutes ces générations. Et ce que nous avons dit pour les sorties de Yaakov est valable pour son retour. C'est-à-dire que par le retour que nous avons lu hier de Yaakov sur la terre d'Israël, je peux comprendre comment les différents retours du peuple d'Israël sur la terre d'Israël se feront, tous ces retours-là, durant l'histoire. Avec toutes les difficultés que Yaakov a subies au niveau individuel, eh bien ça va se répercuter sur la nation tout entière. « Umehava shoresh vebasis » donc c'est la racine et le fondement, « le kol ha-geulot shel am Yisrael le'orech ha-historia » la même chose. Toutes les rédemptions, car c'est une rédemption qui est divisée en plusieurs étapes. Vous comprenez bien. Donc si on vous demande pourquoi le Mashiach n'est pas venu, c'est une fausse question. Le Mashiach vient par étapes. Chaque jour, sous une autre forme, sous un autre angle. Et si vous considérez qu'aujourd'hui le Mashiach n'est pas venu, c'est que vous n'avez pas compris le sens de l'histoire. Yetziato vechazarato shel Yaakov avinu alav shalom. Donc la sortie de Yaakov et le retour de Yaakov. Hen siman lechlal hayetziot ou lechlal hachazarot. C'est inscrit, gravé dans l'ADN du peuple d'Israël durant toutes les générations. Bamuvan achiyuvi veashlili. C'est-à-dire au niveau positif et au niveau négatif du terme, sortir et rentrer. Mitzad echad, par exemple, yetziot letzorech likutei nitzotzot. Il faut sortir, nous l'avons dit tout à l'heure, et je le rappelle, pour récupérer des étincelles. C'est très important. Il y a des forces, des plumes que j'ai laissées dans des pays qui ne sont pas de ma structure intérieure. Je ne vais pas les laisser. Il est interdit de les laisser. Il va falloir, d'une manière ou d'une autre, que je sorte pour aller les récupérer, pour aller les trier. Maintenant, ces étincelles ne sont pas à l'air libre. Elles sont emprisonnées, car quelqu'un d'autre les utilise, ces étincelles, pendant que toi, tu les as laissées. Elles sont sous l'influence d'une autre force étrangère. Il va falloir que tu te battes peut-être pour aller récupérer de l'intérieur de ces forces-là, les étincelles qui t'appartiennent à toi. De l'extérieur, ça peut même apparaître comme un vol. Les tzorech limudim, tseulmat, comme nous avons dit tout à l'heure. C'est pour ça que je dois sortir pour étudier. C'est de tous les exils que nous avons récupéré notre Torah. On est d'accord? De l'exil d'Égypte, on a récupéré la Torah écrite. Elle était là-bas, la Torah écrite, elle était en Égypte. Nous l'avons libérée. Ce sont les noms de Dieu inscrits dans la Torah qui étaient emprisonnés en Égypte. Ce n'est pas des hommes et des femmes, ça c'est dans les films. Les hommes et les femmes n'étaient que porteurs de ces lettres divines. Et d'ailleurs, si on lit la Torah textuellement, c'est ce que la Torah dit, elle ne parle pas ni d'hommes ni de femmes. « Ve'ele shemot b'nei Israël habayim mitzrayim » Elle dit « Voici les noms qui viennent en Égypte, pas les hommes et les femmes, les noms. Pas toi, tu es descendu en Égypte, c'est pas toi, c'est ton nom qui est descendu en Égypte. Ah, toi, descendre en Égypte, je sais ce que c'est, mais ton nom. C'est autre chose, c'est une énergie à aller récupérer. Donc on va récupérer la Torah écrite d'Égypte, et 50 jours plus tard, on va la voir sous la forme des 10 paroles et de la Torah qui nous descend du ciel. Mais en réalité, elle ne descend pas du ciel, c'est nous qui l'avons sortie d'Égypte. Donc elle se revêtit d'un nouveau vêtement, et elle nous apparaît sous la forme du don de la Torah. Après, nous allons sortir dans l'exil de Babylone. Là-bas aussi, il y a une Torah, la Gemara, le Talmud de Babylone, Talmud Babli. Eh bien, il était où? En Babylone. Il était emprisonné chez les nations du monde. Et il va aller sortir en exil pour aller récupérer le Talmud de Babylone et le ramener en terre d'Israël. Encore une fois, récupération des étincelles. Et ainsi de suite, à chaque étape de nos exils, nous avons récupéré certaines choses. Et il faut savoir, dans chaque exil, quelle est la récupération en question. Sinon, tu rates la fête. Et notre dernier exil aujourd'hui, duquel nous sommes sortis et nous continuons encore à sortir les derniers degrés, Edom et Ishmaël, l'Occident et l'Orient, Ishmaël, c'est pour récupérer la lumière cachée de la Torah, la Chassidoute et la Kabbalah. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de revenir, et donc, à force, obligatoirement, vous allez entendre de plus en plus de cours à connotation kabbaliste. Là où vous irez. C'est pas parce que les gens se sont réveillés à étudier la Kabbalah, c'est tout simplement parce qu'elle est en train de revenir. Chacun de vous, lorsqu'il est revenu, qu'il a fait son alia, il a amené avec lui des lumières cachées qu'il ne sait même pas lui-même. Et toutes ces lumières étant là maintenant, il va falloir des décodeurs pour commencer à étudier et à enseigner cette nouvelle étape de la Torah. Donc il y a des sorties et des entrées. Vechazarot letzorech afnamat rayonot ou letzorech yichud mechudash. Et donc à chaque fois que nous sommes sortis, c'était pour re-rentrer. Combien de fois on sort et on rentre? Sans arrêt. Même quand on est déjà dedans, sur la terre, il y a des sorties et des entrées dans la terre. Vous comprenez bien, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il y a en réalité un renouvellement de toute la structure que nous étudions continuellement. Slicha ?
Talmud Yerushalmi.
Talmud Yerushalmi, c'est en grand, mais même au niveau individuel, vous sortez, vous rentrez constamment.
Alors une Yerida, comment tu l'as commencé ?
Pardon ?
Une Yerida,
c'est une Yerida Letzorech Aliyah. C'est-à-dire que si tu arrêtes le film à la Yerida de cette famille, en réalité, c'est comme si tu as vu un épisode 1528 de Dallas, qui comportait au moins 5000 épisodes.
Je les ai tous vus.
Alors imagine-toi, si tu prends un seul épisode au passage, le type il dit, mais c'est qui a fait ce film? C'est un malade. L'autre, il a 3 gosses de cette femme, 8 gosses de l'autre. L'autre, il revient, c'est l'ex-mari du beau-père de la grand-mère de ma. Donc, Quiconque ne voit pas le film entier ne peut jamais comprendre. Et c'est pour ça que la Torah des secrets, traduction de cette Torah, c'est pas étudier des choses secrètes. C'est une vision, c'est une Torah du global. C'est la Torah du film entier. C'est ça que nous sommes en train d'étudier maintenant. Pas des extraits, mais le film dans son entité. Donc, Yetziat Yaakov mi Be'er Sheva, haïta begeder yerida min haroved hashmini, el sheva madrigot shel hateva letzorech yetzikat hamochin ba'er. Pourquoi Yaakov est sorti de Be'er Sheva? Parce que ces trois degrés qui sont la source des sept, Be'er Sheva, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah des Mochim, c'est-à-dire des lumières supérieures qui ont une vision globale. Les sphères d'en bas n'ont qu'une vision fractale, individuelle. C'est-à-dire chaque sphère ne voit qu'elle-même. Elle a du mal à comprendre qu'il y a une autre sphère en face, une autre sphère en dessous. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, il y a eu ce qu'on appelle dans la Kabbalah, Shvirat HaKelim, la brisure. Qu'est-ce que c'est qu'une brisure? C'est quand tu ne vois pas l'autre, que tu ne vois que toi. Et tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un d'autre. Qui va t'apprendre qu'il y a quelqu'un d'autre que toi? Les lumières d'en haut. Donc le sage. Donc la sagesse. Donc le cerveau. Le cerveau va dire à toutes les cellules de mon corps, petite cellule chérie, tu n'es pas toute seule. Fais attention, si tu sors du tout, c'est le cancer. Donc, la force intérieure dit à chaque cellule, tu fais partie d'un tout, tu es une sur des centaines de milliards de cellules. Inyana shel hachazara, donc Yaakov devait sortir de Be'er Sheva pour aller apporter cette lumière en bas. Inyana shel hachazara le'eretz Yisrael, la même chose, le retour sur la terre, ou le tzorech ishtalmut nosefet, c'est pour ramener ce qui était donc éparpillé. Ve'advarim chozrim chalila, et ce n'est pas terminé, il faut encore ressortir pour aller récupérer autre chose. Donc à chaque fois, on récupère quelque chose de beaucoup plus délicat et sensible. Plus nous arrivons à la fin des temps, plus les récupérations sont délicate, subtile. Il faut beaucoup plus de force car il y a beaucoup plus de nuances. Et ceux qui ne savent pas faire, voir, ne verront pas. Ils se diront, ça et ça, c'est pareil. Tu n'arrives pas à voir les petites nuances. Et aujourd'hui, la Torah des secrets, c'est la Torah qui embrasse le tout, y compris les petites et les plus petites nuances. Mais Idargissa, ça, c'était le côté positif. Mais l'ouvoten otan yetziot besakana. Ces sorties, elles sont accompagnées de dangers. Tout à l'heure, j'ai parlé du sens positif des sorties, mais il y a un sens négatif. À chaque fois que vous sortez pour aller récupérer des étincelles, vous êtes en danger. La règle étant kol hadrachim becheskat sakana. À chaque fois, vous êtes en chemin, vous êtes en danger. C'est pour ça que vous priez Tfilat HaDerech. Pourquoi? Quel est le danger? C'est que tu te déconnectes du sens premier pour lequel tu es sorti. Tu es sorti pour une mission, tu risques de l'oublier en t'endormant dans l'exil dans lequel tu vas être. Ça vous rappelle quelque chose? On a perdu 7 millions de nos frères et de nos sœurs depuis la Shoah. Sans la Shoah. La Shoah, elle s'est occupée de 6 millions de nos frères et de nos sœurs. Après la Shoah, il y a encore 7 millions qui sont morts. Sans aucune Shoah. En silence. Juste en oubliant ce pourquoi ces hommes et ces femmes sont sortis en exil. Le danger le plus grand du judaïsme, c'est l'oubli. Notre ennemi le plus grand, c'est l'oubli. Et nous allons le rencontrer dans cette paracha. Lorsque Yaakov se fait frapper dans ce qu'on appelle la hanche, ce n'est pas la hanche, Rabotai. Il s'est fait frapper dans la partie qui donne la vie, dans la partie sexuelle. Alors la Torah, pour parler joliment, a dit que c'était la hanche, mais en réalité ce n'est pas la hanche. Yaakov a été frappé dans le membre qui donne la vie et qui est relié en fait ou bien à la femme ou bien à l'oubli. Car la femme et l'oubli, ce sont les mêmes lettres en hébreu. Neshia, c'est l'oubli, et Nashim, c'est les femmes. Gid Hanashé, que vous traduisez en français par le nerf sciatique. Il n'y a ni sciatique, ni abbas. C'est le nerf des femmes ou le nerf de l'oubli, tout simplement. C'est-à-dire que l'homme peut être le summum de sa mémoire s'il fait attention à ce membre-là, ou bien il peut tomber dans la dépravation et dans la dépression totale s'il oublie ce membre-là. Et qu'il va malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, se perdre parmi les nations par ce membre-là, par des mariages mixtes.
Mais quel est le rapport entre la femme et...
Léa, tout doucement. Étape par étape. Pour ne pas vous laisser en l'air, le monde dans lequel nous sommes est structuré sur trois phases. Vous vous rappelez, le temps, l'espace et l'être. L'un donc de ces trois pôles, c'est le temps. Le temps s'appelle Shana. Shana, c'est les mêmes lettres que Gidha Nashé. C'est-à-dire que c'est le temps. La femme est le temps lié au système temporel parce qu'elle est dans sa... dans ses cycles. Elle peut chas v'shalom être ou bien pleine ou bien vide, donc lunatique. C'est pour ça qu'on appelle ça lunatique, car la lumière de la lune est parfois entière, parfois elle est vide. Et donc l'homme qui ne sait pas comment la femme fonctionne, il devient fou. Donc messieurs, il faut comprendre ce système. Et c'est dans ce système qu'il faut apprendre en fait la mémoire. Car au moment où la lune est vide, on risque d'oublier qu'il y a lune. Qu'il y a un soleil qui doit l'éclairer pour qu'elle retrouve sa plénitude. C'est pour ça que les meilleurs mariages dans le peuple d'Israël, c'est quand la lune est pleine. Ou bien quand elle est dans sa croissance. Et les kabbalistes nous disent de ne pas nous marier entre le 15 du mois hébraïque et la fin du mois. Yeridot me'olam azikaron el ashichecha. Tu n'as pas fixé une date. Encore. Les chutes, donc Shana, veut dire aussi Shinui, possibilité de changer, mais parce qu'il y a dualité, Shniyut. Et quand il y a Shniyut, il y a possibilité de séparation. Shnai, Shnia, une seconde. La notion de temps, c'est la seconde, la deuxième, Shnia, en hébreu, dans toutes les langues. S'il n'y a pas de seconde, première et seconde, il n'y a pas de temps. Mais dans cet espace qui relie deux points du temps, tu peux oublier. Donc de là vient le lien entre Shinui, Nashim, et Neshia, l'oubli. Menaché veut dire oublier. Yosef a appelé l'un de ses enfants Menaché pour dire « Je veux oublier l'histoire de mon père. » Parce qu'on m'a jeté, parce que mes frères m'ont vendu. Donc le fils s'appelle la mémoire de l'oubli. Incroyable. Alors que l'inversion de Menaché, c'est Neshama. Le top du souvenir. Vous comprenez comment on joue avec les éléments. D'ailleurs, le Shmoné qui est ici, c'est Menaché. C'est ou l'oubli ou la grande mémoire. Neshama et Shmoné, c'est les mêmes lettres. Shemen, l'huile de vos beignets ou de vos chanoukiot. Vous pouvez mettre une bougie sur un beignet, ça dure 18 jours. Le miracle est immense. Yetzia minaklal vekfira baika. Et donc sortir de ce tout, car c'est le monde du tout, rappelez-vous, pour sortir, pour descendre dans un monde de l'éparpillement où les sphères ne se reconnaissent pas entre elles. Où je ne fais pas attention à ma sœur Israël, à mon frère Israël. On peut s'oublier dans ce monde, Razvé Shalom, chacun pour soi. Eh bien, ça, c'est l'un des dangers de la sortie. Itrachakut me'erkea kodesh be'olam shel chulin. Oubliez le sens du kodesh dans un monde profane. Yetzia mina achdut akolelet el olam hatmurot. Sortir de l'unité parfaite dans le monde des variations et des permutations. On va vous donner autre chose, bien entendu, pour compléter le manque. À la place d'un rabbin, vous avez un Père Noël. C'est la même chose. Il y a une barbe, il y a tout. C'est un leurre. Gling, gling, gling. Je t'embrouille. Tu es un petit peu angoissé parce que c'est l'hiver, parce que c'est le noir. Alors, ou tu allumes la Hanoukia, ou bien on va t'allumer toute une ville entière avec des lampes et des machins. La, 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 la.
Il y en a qui allument les deux.
Non. On ne peut pas faire les deux. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, c'est oublier sa structure et plonger dans un monde étranger. Ça commence par faire les deux, et après les enfants ne savent même plus où est leur identité. Richouk mina neshama, letova ta'anuga gouf. C'est la même chose comme descendre du niveau de l'âme pour les plaisirs du corps. C'est exactement pareil. On n'a pas interdit les plaisirs du corps, mais sous contrôle de la neshama. Sinon, c'est la dépravation totale. Bricha mina roved apnimi shel hametziut letovat hachitzoniut. La même chose, se sauver de l'intériorité de notre vie pour quelque chose de futile, d'extérieur et de passager. Pour un plaisir qui ne dure que quelques minutes. Il y a aujourd'hui des tests. Combien de temps dure le plaisir quand tu t'es acheté une paire de bottes? Ce sont des tests pour savoir combien de temps de bonheur tu peux avoir. Incroyable. Et combien de temps tu as un vrai bonheur quand tu as, par exemple, un chidouche de Torah? Ce sont des mesures aujourd'hui, mesurables. Yaakov avinu omnam itzliach lashuv el eretz hakodesh. Amus bematmonim yekarim. Yaakov, certes, est revenu sur la terre d'Israël, rempli de trésors. Uliket mina galut et Léa et Rachel. Les premiers trésors qu'il a récupérés, c'est Léa et Rachel. Les deux femmes, les deux mamans par lesquelles le peuple d'Israël va sortir. Elles étaient où, ces femmes? Encore une fois, là-bas, de l'autre côté, chez quelqu'un qui paraît blanc, comme neige. Lavan. Nous disent les Chachamim, ne l'appelle pas Lavan, appelle-le Naval. L'ordure. Il se déguise en blanc. Tout est net. Et là-bas se trouvent deux perles. Et Yaakov va récupérer ces deux perles. Vous croyez que c'est facile? Vous savez ce que la Torah nous donne ici sous la forme d'une histoire d'un type qui est parti, qui s'est marié avec deux femmes, et on lui a collé encore deux autres? Les servantes, vous croyez que c'est une histoire à dormir debout pour les enfants? C'est un sens énorme, Rabotai. Vous rappelez qu'on a déjà étudié qui était Léa. Léa, c'est la Neshama, et Rachel, c'est le corps. C'est-à-dire, Yaakov est allé se marier avec la Neshama et avec le corps, car lui-même était l'échelle qui pouvait relier la Neshama au corps. C'est le seul qui est capable de faire ça. Shemehem Atid, Am Israël et Hibanot. Donc le peuple d'Israël va sortir de ces deux perles qu'il est allé récupérer là-bas dans cet exil. Yaakov shav l'eretz Israël taoun beshefa gashmi veruchani. Donc il revient richissime au niveau matériel et richissime au niveau de l'esprit et des valeurs. Yesh le'avin shirak le'achar shirzaka Yaakov le'toar hadash Israël yachol haya lashuv el haaretz. Yaakov ne peut pas revenir en terre d'Israël en s'appelant Yaakov, car il est encore un juif de l'exil. Encore une fois, Maase Avot Siman Labanim, nous ne pourrons pas revenir un jour, ni rêver de revenir un jour sur la terre d'Israël avec notre mentalité d'exil. nous devons, le soir de notre alia, devenir Israël. Comme Yaakov, le soir de son alia, est devenu Israël. Comment est-ce qu'il est devenu Israël ? Il fallait se battre. Autrement dit, un combat nous attend pour devenir la nation d'Israël sur sa terre. Vous comprenez comment l'histoire s'est faite ? Là, je vous parle, c'est déjà passé tout ça. Et on continue encore à se battre. Pourquoi ? Parce que le combat dure jusqu'à l'aube. Ad alot ha-shachar, jusqu'à la Géoula. Et tout doucement, tout doucement, tout doucement, à la fin de ce combat, on va nous frapper. Rappelez-vous, à l'endroit qui fait mal, à l'endroit qui empêche la descendance. La descendance qui sait en réalité, c'est quoi la descendance? C'est quoi nos enfants? C'est nos jambes. C'est ce qui nous maintient sur terre. Le Zohar nous dit que les enfants s'appellent les jambes du papa et de la maman. Donc c'est notre avenir, c'est notre lendemain, c'est notre espérance. Donc Esav a voulu qu'il n'y ait pas de futur au peuple d'Israël. Il a frappé à l'endroit pour empêcher la vie, vous comprenez ça? Et Yaakov va boiter, il va avoir mal. Et le lendemain matin, il ne va pas lâcher, malgré sa blessure, il va battre la force et l'esprit de Esav. Pourquoi? Pour que ce même esprit de Esav occidental signe à l'ONU que tu as le droit à un État. Et c'est exactement ce qui s'est passé, Rabotai, je ne vous invente rien. La signature de l'ange de Esav que Yaakov devient Israël, c'est la signature à l'ONU en 1947 que le peuple d'Israël a droit à sa nation, à sa terre. C'est extraordinaire. C'est l'ange même de Esav qui nous donne le nom Israël. Mais il fallait se battre. Il fallait prouver que nous sommes forts. Et l'ange qui dit à Yaakov, lâche-moi, c'est fini. Et à la Géoula qui est en train d'arriver, Yaakov qui lui dit non. Je ne te lâche pas tant que tu...
Il n'a pas ton nom.
Non. Non.
Que tu me bénisses.
Non. C'est au passé. Que tu m'aies béni rétroactivement. Tout ce que tu m'as considéré comme un voleur, comme un tricheur, comme un... Qui imberachtani, lo qui imtevarcheni. C'est très important en hébreu. Ça veut dire qu'à la fin des temps, Essa va reconnaître rétroactivement que le peuple d'Israël avait raison et qu'il n'a rien volé dans son histoire. C'est ça que ça veut dire, Rabotai. C'est énorme ce que je suis en train de vous dire là. Ishmaël, ce sont juste les mains de Essa. Essa, pour ne pas se salir, il utilise les musulmans. C'est tout. Mais il tient les rênes par derrière. Shmoa Chadash, le nouveau nom que nous portons aujourd'hui, c'est pour ça qu'il ne faut plus vous appeler des juifs. Il faut vous appeler Israël. J'étais la semaine dernière à Lyon, à Paris, à Rome. Chaque fois on me dit, vous êtes juif? Je dis non. Je suis Israël. Une femme me dit, monsieur, vous êtes religieux? Je dis, non, pas du tout. Bon, mais j'ai vu des cours que vous donnez. Je dis, oui, je ne suis pas religieux. Les religieux, ça ne donne pas de cours. Voilà, bon, pendant une heure, je les voyais, mais... Elle m'a dit, alors je ne comprends plus rien. Il faut juste se relier, madame. Je suis anti-religieux. La religion a tué le peuple d'Israël, elle a maintenu en exil. Qu'est-ce que vous faites là, madame? Qu'est-ce que vous faites là? Shmoa Chadash, le nouveau nom que nous portons, Israël. Nava mima'avakosh el sarosh el Esav balayla shekadam le'aliyatol arza. C'est-à-dire que Yaakov, où est-ce qu'il s'est battu avec l'ange? À l'aéroport. À l'aéroport. À Roissy. Il a battu deux Gaules. Vous comprenez ce que ça veut dire, Rabotai? Tant que vous êtes là-bas, l'ange de Esav ne va pas vous embêter. Quand vous êtes ici, il s'est dit, j'ai perdu. Quand est-ce qu'il va vous attaquer? Au passage. Ça, on l'a déjà vu. À la sortie d'Égypte, on va le voir bientôt. Zachor et Asher Asa Lecha Amalek Baderech Betzetrem Mimitzrayim. Alors qui c'est cet ange-là? Eh bien ça peut être n'importe qui. C'est tout ce qui vous empêche de monter. Je vais vous choquer. La Gemara pose la question, à quoi ressemblait l'ange qui s'est battu avec Esav? Et elle donne deux possibilités. Un rabbin ou bien un goy. Comme ça elle dit la Gemara. Talmit Chacham Nidmelo, goy Nidmelo. Quand c'est un goy, tu sais te défendre. Mais quand c'est un rabbin qui te dit ne monte pas en Israël, tu te dis, mais mon rav de ma communauté, il m'a dit de ne pas bouger. Et regardez Rashi. Moi, je ne vous invente rien du tout, Rabotai. On étudie la même Torah. Ça fait peur. Et lorsque Yaakov va poser la question à ce fameux, cet ange-là, à la fin, comment tu t'appelles, s'il te plaît? Il dit, ça ne sert à rien de connaître mon nom parce que je suis un mutant. Ça dépend des générations. Un jour, je suis le serpent à côté de Adam et Ève. Un coup, je suis Paro. Un coup, je suis Amalek. Je me décompose et je me recompose. Je change de vêtements. Peu importe qui je suis toujours celui qui vient t'empêcher de devenir un peuple. L'essentiel qui nous sort, l'enseignement essentiel qui nous sort de cette paracha. Ou etzema mifgash abilti ninaim umot haolam bishash am Yisrael choser l'Eretz Yisrael. C'est la rencontre obligatoire, inévitable, avec les nations du monde, sous la forme donc de Esav et Yaakov, lorsque nous revenons. Sarochel Esav maskim chotem ou mevarech et Yaakov al nitzchono lamrot she Yaakov tzolea al Yerecho. À la fin de la Shoah, à la veille de la création de l'État d'Israël, nous sommes boiteux, comme Yaakov. Lui, boiteux parce qu'on l'a frappé où on a dit, et nous aussi, on nous a frappé là-bas, on nous a frappé dans notre avenir. On a empêché qu'on vive, on a empêché notre futur. Et on est sorti. On ne sait pas comment. Boiteux. Et les nations du monde signent. Même si elles regrettent 5 minutes après. Hein. C'est pas grave, elles ont signé. Jusqu'à maintenant, elles se mordent les doigts, elles en ont plus. Il n'y a que des moignons. Je crois que le seul vote à l'ONU qui était pour Israël, c'était à cette époque. Tout le reste, c'était toujours contre. Ouais. Incroyable. Sauf un petit pays, on ne sait pas pourquoi, mais ils auront sûrement une place avec le Mashiach, la Micronésie. Ça doit être des anges de Dieu, je ne sais pas. Ya'alev et Yavo, Micronésia, Baouchaba. Tu peux aller vivre là-bas si tu veux, en Micronésie. Les autres, c'était des maxi-nazis. Ça, c'est des micro-nazis. Maase avot siman labanim. Umot haolam achen iskimu, chatmu, veberchu et am Yisrael lifnei hakamat ha-medina bishnat 1947. Gam az higia uma le'artza kshehit tzolaat al Yericha. Nous sommes arrivés en terre d'Israël. Pas seulement maintenant, je vous raconte l'histoire de notre alia maintenant. Mais il y a eu plusieurs Géoulot, rappelez-vous. Mais à chaque fois que nous sommes revenus sur la terre d'Israël, nous étions boiteux. Et que les minables, les pauvres, les malheureux, les gens qui n'avaient rien. Il y a même une famille de Cohen qui ne voulait pas faire la Aliyah. Elle avait un nom de famille, Yehoyariv. Et on a marqué son nom dans une liste noire jusqu'à l'éternité. Parce qu'ils n'ont pas voulu faire leur alia au moment du deuxième temple. Dans les jeux de mots, c'est ça. Dans les jeux de mots, c'est ça. C'est ce que je suis en train de dire. Beikvot alpaim shnot galut. Et tout ceci, cette tzlia, ce boitage, ça se dit?
Oui.
Un boitement. Bon, vous êtes au même niveau que moi. Ça ne sert à rien d'être
cette infirmité.
Bon, cette infirmité. Cette infirmité, quelle c'était 2 ans, de 2000 ans d'exil, ce handicap. J'ai même corrigé. Hein. Pas mal pour un Israélien. Hanitzotzot amevorarim hayu rabim. Les étincelles qui ont été triées étaient nombreuses. Vehem hivu chomer echrechi lebinyan malchut baaretz. Et tout ceci, avec ça, on a fabriqué en fait le royaume que nous sommes en train d'affiner maintenant. Vaivater Yaakov levado. Yaakov est resté seul. C'est très bizarre. S'il est resté seul, avec qui il lutte? Vaivater Yaakov levado, et d'un coup, vaie avec Ish Imo. Si tu es seul, tu es seul. Alors pourquoi tu me dis, je suis seul, mais il y a un type qui se bat avec moi, alors je ne suis pas seul. Adalot Achachar jusqu'au lever du jour. Moralité, Yaakov était seul. Il s'est battu contre lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Même s'il n'y avait pas de combattant en face de lui, il s'est battu contre la force de Essav qui était en lui. Contre la force du doute que vous pouvez aujourd'hui rencontrer aujourd'hui aussi. À chaque fois que vous allez prendre une décision, vous avez ce combat nocturne, qui veut dire dans le doute, avant d'arriver à une certaine lumière. Alors j'explique. Yeshna stira, il y a une contradiction. Bapasuk atzmo, pas une gifle, hein, c'est avec un ta. Une contradiction. Shareim Yaakov notar levado, car si Yaakov était seul, mi hu ha'ish shenevak imo, qui est l'homme avec lequel il s'est battu? Yaakov ne'evak im chelek me'atzmo. Yaakov s'est battu avec une partie de lui-même. Imatzad ha'esavi ha'kayambo. Avec la force de Esav qui est en Yaakov. Car en nous, il y a aussi Esav. De la même manière que chez un homme, il y a un côté féminin, dans le peuple d'Israël, il y a un côté des nations du monde. Et si vous ne connaissez pas, ne reconnaissez pas cette partie en vous-même, elle peut vous embrouiller parce qu'elle se déguise en blanc. La vanne.
Et dans les nations, il y a une partie juive.
Ben vadaï. C'est celle qu'on sort pour récupérer.
Donc la vanne, il peut être vraiment blanc.
Ben, c'est pour ça qu'il y avait Léa et Rachel. Une fois qu'elle est sortie, c'est fini. Même Homo ne peut plus rien pour elle. Ça existe encore. Alors, Bagmara Bechoulin, le Talmud dans le traité de Choulin, à la page 91, Chad Amar ke goy nidmelo. À quoi ressemblait cette force? Un goy. Vechad Amar ke talmid chacham nidmelo. La Gmara rabotai. Ça fait peur.
Ils ne disent pas la Gemara, les rabbins de France, d'ailleurs.
Je peux vous dire juste que ce que notre groupe à nous a subi la veille de notre alia. Un de ceux-là a convoqué les femmes pour essayer de leur faire peur. Il a réussi avec quelques-unes. Et Baruch HaShem, la majorité du groupe a réussi à monter. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça? Quand le Yetzer Hara ressemble à un goy, c'est facile relativement de se battre, de le reconnaître d'abord et de se battre. C'est facile de le d'identifier. Ça devient maintenant compliqué. Ah, tu es mieux que mon rave, toi. J'étais la semaine dernière à Lyon, j'ai donné un cours dans une synagogue et un type m'a dit ouais mais quand même ça marche pas, hein. J'ai dit c'est vrai, ouais, pas tout le monde montera en Israël, c'est vrai, je vous souhaite de faire partie de ceux qui vont monter un jour, c'est tout. Vous savez qui n'a pas le droit de se réveiller à la résurrection des morts? Celui qui n'y croit pas. Comme ça dit la Gemara. C'est incroyable. C'est pas une punition. On lui dit, puisque tu ne crois pas, t'as raison. Pour toi, il n'y aura pas. Incroyable. C'est terrible. La Torah, elle est extrêmement terrible. Alors, la Gemara va aller jouer un petit peu jusqu'au bout. Elle va dire, mais comment ? Elle dit, non, il va se réveiller. Il va voir que tout le monde se réveille. Il va remourir. Il n'aura pas le droit de faire partie du lot. Allah istop. Faire partie de ceux qui se réveillent, qui voient qu'effectivement ils avaient raison, tous ces fous. On lui dit, ça y est, stop, la hafsaka est terminée. Yetzerara, adomé.
Juste par rapport à la réponse que vous m'avez donnée sur Rachel et pour Yaakov.
Okay.
On a parlé de l'assimilation, que par le membre, on perd 7 millions de nos frères. Oh. Pourquoi Yaakov, lui, en allant chercher chez Laban des femmes, il a réussi à faire le tikkun alors que nos frères ils tombent. Moi je pose une autre question. Est-ce qu'ils peuvent faire encore le tikkun même quand ils se sont assimilés en remontant en Israël?
C'est très dur mais c'est possible. C'est très dur mais c'est possible. Ki lo idach mimeno nidach. Car Akadosh Baruch Hu veut sauver